Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Conversations RH. Je suis David Gordon et j'ai le plaisir de poursuivre nos échanges éclairés entre experts RH avec un nouveau sujet passionnant. D'abord, Conversations RH, c'est un contenu qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Et après avoir évoqué les soft skills dans le premier épisode, parlons dans cet épisode du management de transition. Cette fonction qui vient des pays anglo-saxons et dont le développement est de plus en plus fort en France. Alors pourquoi les clients ont de plus en plus recours au management de transition? Pourquoi la complémentarité, cette dualité entre le ou la manager de transition et son cabinet de conseil est fondamentale dans le succès des missions? Quelles sont les clés d'un management de transition réussi? Réponse dans cet épisode en compagnie d'Éléonore Pio. Bonjour Éléonore.
Bonjour David.
Tu es principal chez LHH Recruitment Solutions, management de transition. Tu es consultante très expérimentée, senior sur le sujet.
On peut dire ça.
On peut dire ça et on va le voir dans des réponses qui vont être très éclairantes également. Sur ce plateau également, Vincent Foulon. Bonjour Vincent.
Bonjour David.
Tu es manager de transition et tu vas nous parler de ton retour d'expérience, de ton quotidien.
Avec grand plaisir.
Et nous avons également sur ce plateau Grégoire Conquet. Grégoire, bonjour.
Bonjour David.
Tu es Managing Director de l'activité Management de Transition en France et tu vas nous parler de ce sujet, de cette thématique du management de transition qui est de plus en plus forte en France. On la voit de plus en plus souvent dans les entreprises.
Absolument, absolument. C'est un métier qui a vu le jour en France il y a une vingtaine d'années et qui connaît depuis une croissance forte et régulière. Métier qui est arrivé en Europe par les pays saxons, qui sont des pays, et c'est un secret pour personne, équipés de droits sociaux un peu plus légers, un peu plus fluides, mais qui métier qui a maintenant vraiment percé en France. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un métier moderne et qui apporte une solution nouvelle et très performante aux entreprises.
On va en parler dans quelques instants et je précise que nous aurons à distance Thomas Vauquier. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes DAF de seloger.com et vous avez eu affaire à Éléonore Pio et à Vincent Foulon dans une expérience précédente de management de transition pour la fonction finance dont vous allez nous parler dans quelques instants. Retour d'expérience donc très très concret, mais écoutez, je crois qu'on est bon, on est tous prêts. C'est parti pour Conversations RH, deuxième épisode. Merci à vous quatre d'être présents dans ce podcast. On l'a dit, on va parler du management de transition avec des retours d'expérience très, très concrets. D'abord, première question, Grégoire, on a commencé à l'évoquer en introduction, mais comment définir cette activité qui est quand même relativement nouvelle dans les entreprises?
C'est vrai, le management de transition, je le disais, existe depuis une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, il prend une importance sans cesse grandissante. Si je dois le définir très simplement, je dirais qu'il y a un mot pour donner toute sa force, c'est le mot de mission.
C'est-à-dire?
Le manager de transition est une personne qui va mener une mission précise dans un instant T avec un début de mission, une fin de mission et qui va avoir, de manière impérative, l'obligation de délivrer un résultat.
D'accord.
Et bien au-delà d'une mission de conseil, on est sur des enjeux opérationnels, de transformation, de gestion de crise, avec un début, une fin et des attendus. D'un point de vue, j'allais dire purement contractuel, les gens qui ne sont pas trop à l'aise avec le sujet, si on peut vulgariser, je dirais très simplement que le management de transition en droit français, c'est ce qui n'est pas du CDI, avec beaucoup de solutions différentes à portée de main, bien sûr.
Donc, on accueille un collaborateur qui devient manager d'une équipe pour un temps particulier avec un objectif précis. Il n'est pas en CDI, il est en mission, mais complètement dans l'entreprise, considéré comme tel par tout à chacun.
Il est absolument partie prenante de la vie de l'entreprise avec une mission assignée, généralement urgente et importante et très opérationnelle.
Grégoire, concrètement, comment ça fonctionne une mission de management de transition?
Pour moi, il y a deux temps.
Ouais.
Il y a le temps de préparation de la mission elle-même et c'est le temps où justement le consultant a une forte valeur ajoutée de compréhension fine des enjeux. Il y a un travail dans un délai de temps très court où il faut aller interviewer le donneur d'ordre pour comprendre la nature, l'urgence, l'importance de la mission, le dessous du décor, la véritable ambition de celle-ci, de manière à pouvoir ensuite, dans le deuxième temps, très rapidement, trouver le bon manager de transition. Et le bon manager de transition, on le verra, c'est le trouver sur, bien sûr, des compétences techniques, mais bien évidemment et bien au-delà, des compétences comportementales, des leviers de motivation, afin de pouvoir trouver, encore une fois, rapidement, un attelage efficace, opérationnel et performant.
Alors, on va revenir effectivement sur cette sélection de ces profils qui sont les managers de transition. On a la chance d'avoir une équipe sur ce plateau. Vincent Foulon, tu es avec nous, tu es manager de transition et tu travailles en équipe avec Eleonore Pio. Vous êtes une équipe tous les deux, c'est-à-dire que vous fonctionnez au quotidien. Un manager de transition, c'est pas juste une personne qui est dans une entreprise, dans une mission avec un objectif précis, timé dans le temps, etc. C'est en fait une équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer, Eleonore, en quoi consiste votre équipe de deux?
C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble avec Vincent. Une équipe de deux dans le sens où je trouve que, en ce qui nous concerne, les cabinets, c'est la moindre des choses d'être très proche de nos managers de transition quand ils sont en mission, parce que c'est pas facile. Leur tâche n'est pas évidente d'un point de vue contenu, d'un point de vue parfois humain. On doit être à leur côté, les soutenir, les accompagner. Et c'est vrai que moi, je mets un point d'honneur à être à leur disposition. Ils le savent, je leur dis. Ça ne me coûte absolument pas, parce que j'adore ça, mais d'être à leur côté pendant la mission, absolument.
Ouais, vous travaillez au quotidien tous les deux. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il y a des points de synchro, des points réguliers entre vous deux et à trois avec le client.
Du formel et de l'informel, absolument. Et
c'est très important parce qu'effectivement, quand on est dans la mission, on est quand même très dans l'opérationnel, on voit les choses de relativement près. En général, entre ce que le client avait perçu et donc exprimé à Eleonore et ce qu'on voit dans le réel, dans la mission, il y a toujours un petit décalage. Donc, c'est important de recaler les choses. Et en plus, Eleonore, elle a quand même une vision qui est hélicoptérique, alors que moi, je suis sur le terrain. Donc, c'est important d'avoir la complémentarité de ces deux visions pour être capable d'ajuster le tir quand c'est nécessaire.
Ouais. Thomas Vauquier, je rappelle que vous êtes DAF de seloger.com. Vous avez travaillé avec Vincent et Eleonore. Pourquoi avoir choisi de faire appel à un cabinet pour votre besoin de manager de transition?
Écoutez, nous avions rarement recours au management de transition. En tout cas, pour mon département, c'était une première. Et nous voulions un accompagnement pour nous aider à aller plus vite dans la sélection des candidats et pour nous assister surtout dans cette sélection avec un regard objectif qui nous permette de prendre la bonne décision malgré la pression du temps, puisque c'est toujours sous pression qu'on prend généralement ce genre de position, ce genre de job et qu'on prend cette décision d'intégrer un manager de transition.
Grégoire, est-ce qu'il y a d'autres contextes qui sont particulièrement adaptés que celui que vient nous expliquer Thomas?
Alors, des contextes très souvent d'urgence, on l'a noté, mais dans cette urgence, j'y reviendrai plus tard, ne pas confondre vitesse et précipitation pour autant, parce que des contextes d'importance, avec des contextes, alors dans le jargon, on parle de mission relais ou de mission projet, il y a des projets d'importance sur de la transformation, sur des déménagements, sur des gestions de crise positives ou négatives, sur des gestions de retournement. Donc oui, il y a multitude de projets, de l'importance donc en amont, de bien questionner, de bien comprendre avec un discernement et beaucoup de finesse les véritables enjeux.
Ouais. Et Léonore, quels sont les types de métiers où le management de transition est particulièrement adapté?
Alors, ce qu'on remarque énormément, ce qui est beaucoup consommé, si je peux m'exprimer ainsi, la direction financière, la direction des ressources humaines sont vraiment les consommateurs historique du management de transition ainsi que la direction générale. Et depuis plusieurs années, on remarque que de très nombreux métiers sont en train d'y venir, des métiers purement industriels comme la supply chain par exemple, des directeurs d'usine, des directeurs de site, des achats. C'est vraiment en train de se diversifier et on note aussi que c'est en train de descendre dans la hiérarchie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était vraiment sur des niveaux de CODIR, voire COMEX. Maintenant, ça peut être les fonctions juste en dessous.
D'accord.
Un directeur financier, par exemple, qui est au CODIR, peut nous appeler pour me dire « j'ai besoin d'un directeur du contrôle de gestion ». Donc lui, pour le coup, il est juste en dessous de lui. Ouais. Voilà ce qu'on remarque depuis quelques années.
Mmh. Vincent, quels sont les types de missions qui peuvent vous être confiées?
Il n'y a pas de mission type. En revanche, il y a des constantes en fait, qu'on trouve dans les missions. Il y a en général des équipes qui sont en souffrance, qui sont très sollicitées et qui ont besoin de reprendre confiance. Et des besoins de transformation ou de pas en avant décisif, c'est-à-dire on peut faire du changement de RP, on peut décider de mettre la mise en place de prix de revient standard, on peut décider de faire des changements de méthode. Et donc ça, c'est très large, mais la constante, c'est que l'équipe est au maximum de ce qu'elle peut donner.
Ouais.
On a besoin de lui redonner confiance pour passer un palier.
Par exemple, chez seloger.com, quel était le type de mission, si on peut le dire?
Alors, j'espère qu'on peut le dire. La mission, c'était la création d'une direction financière sous Thomas, puisque Thomas élargissait son périmètre. Et donc, dans cette question-là, il y avait une grosse tension sur l'équipe contrôle de gestion. Et donc, la capacité à être capable de passer des enjeux qui sont nouveaux. Ouais. En l'occurrence, dans la crise Covid, ce qui s'est présenté qui était nouveau, c'était toute la partie cash, prévision de cash, sur laquelle l'équipe n'avait pas encore agi. Et donc, avait besoin d'apprendre les bons réflexes et de commencer à mettre tout ça en œuvre.
Très bien. Est-ce que le Covid, Grégoire, a joué un accélérateur pour cette pratique, cette fonction de management de transition?
Alors, le Covid a eu un effet. Hein. Le management de transition n'a pas échappé à la crise du Covid. Pour rappel, le management de transition, c'est un marché en croissance d'à peu près 20% chaque année, okay, avant cette fameuse année du Covid. Cette année du Covid, on note un léger recul pour la première fois du management de transition.
D'accord.
Or, je tiens à le préciser, on a fait une petite croissance d'1%, mais on est quand même resté dans le positif.
D'accord.
Mais il y a eu quand même un coup de frein. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'on en sort, on remarque à l'inverse une reprise de la marche en avant qui est effrénée. Alors, pour plusieurs types de raisons. D'abord, parce qu'il y a un rattrapage. Il y a un phénomène de rattrapage évident. Deux, on a bon nombre d'acteurs, de donneurs d'ordre qui étaient restés dans des dynamiques à ne pas envisager de pouvoir recruter en CDI et qui, pour autant, ont des besoins absolument urgents et vont donc réfléchir de manière un peu plus moderne sur des solutions contractuelles plus souples, plus opportunistes pour répondre à leurs questions. Donc, on a effectivement une très belle embellie du management de transition et structurellement et conjoncturellement.
Est-ce que ça peut être un indicateur, cette embellie, comme tu dis, du management de transition, est-ce que ça peut être un indicateur qui montre que les entreprises veulent évoluer dans l'urgence rapidement, peut-être suite à cette crise de Covid également?
Alors, je ne sais pas si elles le veulent, mais elles le doivent. Et j'ai envie d'aller au-delà de la simple notion d'urgence. Je pense, j'ai la ferme conviction que ce management de transition, de plus en plus, va être une solution extrêmement complémentaire et de plus en plus développée.
Très bien. Bon, on va voir ça dans quelques instants. Le management de transition, ce sont des hommes et des femmes, hein, qui, à un moment donné, se rencontrent. Et du coup, ça m'intéresse de connaître votre histoire à tous les deux, Éléonore et Vincent. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment tu as recruté Vincent et Éléonore?
En fait, on s'est rencontrés en 2019, je crois. C'était vraiment un entretien dans le cadre général. J'avais le CV de Vincent, évidemment, que je trouvais intéressant, qu'il faisait déjà des missions, donc je l'ai appelé pour qu'on se rencontre. Donc, c'était un entretien pour faire connaissance, voilà. Mmh. Pas plus que ça. Et puis, quand j'ai la mission de se loger.com qui est rentrée, ben, j'ai pensé à lui, je l'ai rappelé. C'était 2 ans après. Parce que c'est vrai que c'est un travail, je trouve, au long cours. On voit les gens parfois plusieurs années en avant, et puis un jour, la mission pour eux tombe, et c'est là que les choses peuvent se faire.
Ouais. De manière générale, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on recrute pas pour une mission en particulier, on recrute parce qu'il y a un profil intéressant, il y a une relation qui se crée, et un jour, ça peut faire une belle histoire.
Il y a les deux, en fait.
Il y a les deux.
Il y a le cas de figure qu'on a vécu avec Vincent, qui est le cas de figure le plus agréable, parce qu'au moins, quand il y a une mission, on se connaît déjà. Et puis, il y a aussi, Vincent, il ne va pas m'attendre. Hein, donc, peut-être que la prochaine mission, elle ne sera pas dispo. Les personnes auxquelles je penserai ne seront pas dispo. Et là, je vais rencontrer des candidats pour la mission.
D'accord, très bien. Bon, on va rentrer dans la deuxième partie de ce podcast sur très concrètement comment ça se passe, une mission de management de transition. C'est parti. Alors, j'aimerais démarrer cette deuxième partie, pour être très concret, en racontant ton histoire, Vincent, parce qu'elle est intéressante pour la suite de nos échanges. Tu as eu un beau parcours chez LVMH et dans les grands groupes en France et en étranger, sur des postes qui sont très opérationnels autour de la finance, autour du contrôle de gestion industrielle, notamment. En 2016, tu décides de quitter le groupe LVMH pour devenir freelance, pour être à ton compte. C'est le début d'une histoire où, tu le diras, tu te sentais peut-être un petit peu seul à ce moment-là.
Tout à fait. En fait, c'est le grand intérêt de travailler avec Éléonore. C'est quand on est en freelance, on est nécessairement très seul pendant les missions. Donc, les premières missions que j'ai réalisées,
tout seul,
je les ai prises par mon réseau, donc je les ai prises tout seul. Et ce qu'on trouve habituellement dans le management de transition, le client n'est pas forcément conscient de manière très exacte de ce dont il souffre. Et donc, les ajustements de mission sont plus difficiles quand on est tout seul que quand on a quelqu'un comme Éléonore qui est capable de reprendre, en fait, ce qui a déjà été dit avec le client, et de le reprendre à la lumière de ce qu'on voit sur le terrain et de réajuster ensemble, en fait, le brief.
Mais ça, tu le découvriras après, parce que tu passes quelques années en freelance tout seul, et puis, à un moment donné, tu te dis, je reprends un CDI, parce que peut-être la solitude me pèse, parce que je préfère avoir peut-être une vision claire sur la suite, sur les mois à venir, c'est ça?
Oui, et puis les missions en freelance m'ont emmené jusqu'en Roumanie, donc là, pour le coup, en Roumanie, j'étais vraiment tout seul, et donc c'est très confortable de pouvoir revenir en France quand on vous propose un CDI. CDI.
Ouais.
C'est la tentation, du reste. Ouais.
Et après cette période de CDI qui s'écourte, parce qu'à un moment donné, on est appelé par ses envies de redevenir un peu pas seul pour le coup, parce que tu passes manager de transition avec cette équipe qui est constituée entre Éléonore et toi.
Exactement. Alors, c'est confortable, hein. C'est-à-dire que c'est tout l'enjeu. Quand on est en CDI, on perd une partie de son indépendance qu'on a en tant que manager de transition et qui est addictive. Et c'est vrai que travailler avec Éléonore, c'est extrêmement confortable. Ce qu'Éléonore a dit est très juste. On s'est rencontrés en 2018 et moi, je perçois le métier comme le moteur principal, c'est la confiance. Et en fait, on a besoin d'avoir une grande confiance
entre vous.
Moi avec Éléonore et Éléonore avec moi. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à le mieux avancer. Ça nous permet de se dire absolument tout ce qui arrive. Et on a besoin d'être très clair parce que, comme le disait Grégoire, on doit aller vite. On a des livrables à fournir. Et donc, il faut être sûr qu'on soit capable de refaire des calages dès qu'on a besoin et d'ajuster le tir.
Et quelle est la différence entre ces trois approches, hein? Je rappelle que tu as été donc salarié, freelance, puis manager de transition, donc trois aspects du travail. Quelle est la différence entre ces trois-là? Parce que là, du coup, t'as plus de N plus 1 parce que tu n'es plus salarié, tu as un client, donc ça, c'est une particularité, mais en même temps, tu n'es pas seul. Quelles sont les grandes différences?
Alors, la vraie grande différence avec le CDI, c'est qu'effectivement, on travaille avec un client et pas un N plus 1. Donc, on n'en a pas de tabou. En fait, on peut dire au client tout ce qui se passe et on n'est pas en train de jouer sa carrière. Donc, ça, c'est un changement de positionnement qui est très important.
C'est fondamental.
Et ensuite, on a la chance de se concentrer sur le cœur du métier. Donc, la dimension politique est inexistante. En fait, on a un livrable. Pour moi, on a un contrat avec le client qui dit, voilà, ça, c'est à livrer. Il y a un certain nombre de conditions, mais qui sont assez larges. Et ensuite, on est concentré sur l'objectif. On ne s'inscrit pas dans le long terme. Donc, dès le démarrage, on connaît le livrable, on connaît la durée. Et ensuite, ça n'est que de l'organisation et que du travail avec Éléonore si on a besoin de caler, mais on est vraiment focalisé sur l'objectif.
En quoi l'approche d'Éléonore t'a convaincu, Vincent, de travailler avec elle?
Alors, Éléonore, elle a plein de très belles qualités. La première d'entre elles, c'est qu'elle est une disponibilité absolue. Ouais. Et avec Éléonore, on peut discuter très ouvertement parce que Éléonore, elle a un positionnement de partenaire avec moi. En théorie, sur le papier, elle est mon client. Mais en fait, en réalité, elle est mon partenaire. Quand on va voir le client, on travaille ensemble. Et ça, c'est vraiment très clé et très confortable.
Grégoire, c'est quoi l'intérêt pour un client, et on va interroger Thomas juste après, hein, de positionner ces binômes, cette équipe?
Pour moi, ils le disent très bien, ils sont extrêmement complémentaires. Et ils le sont, je pense, parce qu'ils se sont vraiment rencontrés. Au sens où, parler d'urgence, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas confondre vitesse et précipitation. Ils ont pris le temps de se connaître sur, très certainement, tout ce que Vincent a amené sur la table en termes d'expertise et de compétences techniques, mais pas que. Qui est-il? Comment il s'est construit? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quels sont ses axes de performance comportementale? Quels sont ses leviers de motivation? Et ensuite, on est meilleur à deux, avec une vision très opérationnelle, saccadée, rythmée, une vision un peu plus large et très disponible. Et effectivement, ce binôme peut aller au front avec le donneur d'ordre pour, j'allais dire, faire vivre la mission, la rythmer, l'approfondir si besoin était, donc lui donner un corps et une performance inespérée.
Ça m'intéresse d'avoir le retour de Thomas Vauquier, vous êtes toujours avec nous. Au quotidien, qu'est-ce que cette équipe vous a apporté et a apporté à l'entreprise?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, dès le début, des rituels à trois, d'abord approchés, puis ensuite sur une base mensuelle. Et ces entretiens, qui étaient parfois préparés par avance entre Éléonore et le manager de transition, donc Vincent, nous ont permis de nous assurer du bon alignement entre l'entreprise et le manager de transition. Cet alignement, en fait, permet de lever les éventuelles incompréhensions, les doutes, et d'évacuer aussi les freins culturels qui pourraient nuire à l'intégration du manager de transition, et de nous aligner et d'aligner régulièrement l'entreprise et le manager de transition, toujours sous le regard attentif et objectif du cabinet. En fait, ça revient à faire un entretien de performance mensuel, bien ciblé sur les enjeux à moyen terme et non uniquement sur les projets ou sur les tâches à court terme. On a d'autres, occasions avec le manager de s'aligner comme ça, mais c'est surtout cet alignement sur les enjeux à moyen terme qui est intéressant. Et c'est ce qu'on devrait prendre le temps de faire avec nos collaborateurs en interne, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire, trop pressé par la pression en fait du court terme. L'intérêt d'avoir un regard extérieur, c'est justement de s'assurer de l'objectivité de ces rituels et en même temps de garder cette position haute, cette position méta, qu'on serait capable de faire, mais je pense qu'on serait assez vite attiré ou happé par le quotidien. Et on aurait tendance à aller tout de suite sur le contenu, la mission, l'objectif, les tâches à remplir à très court terme, sans prendre justement ce temps du recul. Et je vois bien avec Vincent, c'est effectivement ce qui a pu se passer, puisque dans les entretiens avec Vincent, qui ont été aussi réguliers, hein, on a été volontairement plus axé sur les tâches, sur les projets, sur l'ensemble des opérations qu'on a envie de conduire, et moins sur cette prise de recul qui était très positive pour nous deux.
Je vous vois sourire, Vincent, en écoutant Thomas. Ça rappelle des souvenirs, j'ai l'impression.
De très bons souvenirs. Non, on a très bien travaillé avec Thomas. C'est quand même un contexte de crise dans lequel on a pris la mission avec Éléonore et Se Loger. C'est la crise Covid, c'est le démarrage. Donc forcément, beaucoup de tensions sur les équipes finances, avec la volonté de faire du chômage partiel dans un certain nombre d'endroits. Et donc, ça a créé de la tension. Donc, c'est vrai qu'avec Thomas, on avait une grosse volonté d'action qui sont très tangibles. Et c'était bien aussi de pouvoir les partager avec Éléonore pour être capable de reprendre ne serait-ce que la mesure de ce qu'on est capable de réaliser dans un temps donné. Et encore une fois, on est dans un temps dont on connaît la fin.
Ouais. J'aimerais revenir sur le rôle d'Éléonore, parce que si vous étiez, j'ai l'impression, un orchestre, on aurait le soliste, le premier violon, c'est Vincent. On a le chef d'orchestre qui est Éléonore, avec des donneurs d'ordre qui peuvent être Se Loger, etc. Mais c'est important, j'ai l'impression, pour toi, Éléonore, de comprendre le manager de transition, mais également de comprendre très précisément, en tant que chef d'orchestre, le besoin du client et de Thomas en particulier. Comment tu t'y prends pour comprendre parfaitement le besoin? Est-ce qu'il y a une méthode?
Il n'y a pas de méthode, je pense pas. Il faut tout savoir, en fait. Il faut vraiment avoir en face de soi le donneur d'ordre avec lequel on va travailler, pas un intermédiaire de préférence, et vraiment tout comprendre. Mmh. Parce qu'après, on est l'intermédiaire avec les managers de transition, avec les candidats avec qui on va parler de cette mission, à qui on va vouloir donner envie. Mmh. Donc, c'est beaucoup de questions et beaucoup d'écoute de ce donneur d'ordre. Ça, donc, c'est très important.
Pas passer par des intermédiaires qui peuvent être les achats, par exemple, ou c'est ça, les intermédiaires?
Ben, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le donneur d'ordre en direct.
En direct.
Ouais, c'est mieux. Là, ouais. On a vraiment toute la mission. On comprend pourquoi, le contexte, ce dont ils ont besoin, où ils veulent aller. Les intermédiaires, ouais. Pas forcément, d'ailleurs.
Ouais. Je vous propose de passer dans cette dernière partie du podcast où on va justement parler des clés pour réussir une mission de management de transition au travers de l'histoire qu'on raconte aujourd'hui. Vincent, comment ça se passe, la prise de poste? Ça m'a beaucoup intéressé en préparant ce podcast. On arrive à un poste de management. On n'est pas du sérail, on n'est pas de l'entreprise, on vient de l'extérieur et on doit convaincre tout de suite. Comment ça se passe? C'est quoi les points clés qui te permettent d'arriver et d'être accepté par les équipes?
Pour moi, la clé absolue, elle est limpide, c'est l'équipe. C'est là où on fait, où on défait la mission. Puisque finalement, on arrive souvent dans des contextes où l'équipe est en souffrance. Donc, la première chose dont elle a besoin, c'est de reprendre confiance. Et donc, ouais. Pour faire ça, en fait, il faut célébrer les succès, préparer la transition. Et si on arrive à faire ça, alors on a une feuille de route qui est claire, qu'on peut expliquer à l'équipe. Donc, on a un projet. Et ensuite, c'est simplement la capacité à fédérer autour du projet. Mais il faut d'abord rassurer l'équipe et en tout cas à s'assurer qu'on va, on va préparer les conditions pour obtenir son adhésion.
D'accord. Rassurer, donner un cap très clair.
Ne serait-ce que parce que le fait d'avoir une équipe permet de pas concentrer toutes les tâches sur soi. C'est aussi simple que ça. C'est une capacité d'aller vite. Alors que si vous le faites tout seul, évidemment, les managers de transition, on sait faire tous les métiers que fait l'équipe. Mais si on le fait tout seul, on a une vitesse qui est forcément moindre.
Engager l'équipe, Éléonore. Peut-être une réponse complémentaire, je ne sais pas si tu as une clé pour bien arriver dans ces équipes.
Moi, ce que je trouve que c'est une question de mindset avant tout. Évidemment que la personne qui arrive à l'expertise technique, on en a déjà parlé, Grégoire l'a dit tout à l'heure, bien sûr. Mais honnêtement, tout le monde n'est pas capable de travailler en mode mission. Et donc, ce mindset est fondamental. Enfin, il faut être capé quand même pour y arriver. Et puis aussi, ne pas se projeter. Un manager de transition ne doit pas se projeter dans la structure où il est, et vice-versa d'ailleurs. Ouais. Il doit gérer ses intermissions, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc c'est vraiment, je trouve, une question de mindset qui n'a rien à voir avec le modèle français, qui est quand même, qui est en train de bouger, mais historiquement qui est en CDI, longtemps, dans un grand groupe. Là, c'est exactement l'inverse.
D'accord. Grégoire?
Je crois que le seul danger, c'est de devoir tomber dans la tentation du copier-coller, quand on a autant d'expérience. Et le secret du bon manager de transition, c'est justement parce qu'on a beaucoup d'expérience de se dire avec rapidité et humilité, je me mets au cœur du réacteur, au centre des équipes, pour écouter avec beaucoup de curiosité, diagnostiquer et fort de ce diagnostic, ensuite embarquer les équipes aux alentours. Et là, on arrive en mode actif et efficace.
Donc, on copie-colle pas des expériences précédentes, mais on s'en inspire pour réaliser une mission qui est complètement différente avec des gens différents. C'est ça, en fait, ce que je comprends, Vincent. C'est comme ça que tu le sens aussi.
Bien sûr. Il y a, alors, on l'a pas dit de manière très claire, mais évidemment, dans la mission, il y a forcément une période d'observation.
Ouais.
Avec des clients qui le mettent du reste de manière très claire ou qui ne l'écrivent pas. Là, dans la mission actuelle, c'était écrit, on s'est laissé 15 jours pour faire un diagnostic. Et sur la base de ce diagnostic, on a avancé en fait avec le directeur financier monde.
Comment tu engages ? Alors, on l'a compris, il faut rassurer, etc. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres techniques qui te permettent d'engager les équipes. Raconte-nous, ouvre-moi un peu tes secrets.
Alors, je vais dévoiler mon premier secret. Je pense que la question, elle est toujours une question de donner du sens. Et dans les équipes finances, on a souvent des tâches qui sont très segmentées, très parcellaires. Et donc, donner du sens, c'est vraiment la première clé. Mmh. Ensuite, la deuxième clé, c'est quand même l'attitude positive et énergique. Donc, c'est donner de l'énergie, donner envie aux gens de vous suivre. Ça rend, appelez ça du charisme si on veut, mais c'est globalement ça l'idée. Et puis ensuite, il faut battre la mesure, c'est-à-dire avancer et célébrer les succès.
Alors, tu fais le tambour dans l'orchestre que j'ai fait tout
tambour.
À l'heure, finalement.
Moi, j'ai le tambour.
Toi,
j'ai moins de violon que le tambour, effectivement.
Tu fais le tambour. Très bien. Et Éléonore est donc la chef d'orchestre.
Exactement.
Comment l'entreprise peut s'assurer de la préparation d'un long terme avec un management de transition qui est, par définition, court ? C'est une question que je me suis posée aussi en préparant cette interview, Vincent.
Alors, c'est intéressant. C'est l'objet de la mission actuelle, en fait. On prépare un long terme qui est plutôt un 2022. Et on fait ça, en fait, il faut être clair dès le départ sur ce qu'on va faire dans la mission et ce qui sera au-delà de la mission. Et c'est ça qu'il faut arbitrer avec le client. Là, en l'occurrence, on prépare une transition 2022. On a des étapes qu'on est capable de mener au sein de la mission. Donc, on va passer en coût standard, on va changer le RP, on va préparer de la documentation qui n'est pas existante aujourd'hui. Et en 2022, on va obtenir, en fait, les fruits de cette... de toutes ces actions de performance. Et puis, il y a d'autres actions qui s'inscrivent plus sur le long terme et qui seront donc au-delà de la mission, qui seront certainement prises par la personne qui prendra le poste en CDI.
Mmh. Thomas, quel est le rôle que peut jouer l'entreprise pour que le manager de transition soit accepté dans vos équipes, donc, et qu'il puisse avoir vraiment tous les moyens pour aller au bout de l'objectif qui peut être court-termiste ou long-termiste, comme on le voit actuellement dans la mission de Vincent ?
Ben, je crois que le rôle de l'entreprise est extrêmement important pour l'intégration du manager de transition et pour la réussite de la mission. Il me paraît indispensable que le manager de transition soit embarqué très rapidement et avec autant de soins que pour un salarié, et j'irais même avec peut-être une attention encore plus grande. C'est vrai que parfois, pour des postes à responsabilité, on a tendance à attendre une grande autonomie du nouvel entrant et on se permet parfois de le laisser se faire les dents dans l'exercice de sa mission. Avec un manager de transition... je crois qu'il est de l'intérêt mutuel de lui faire gagner du temps au démarrage en mettant en place des rituels d'intégration encore plus serrés, parce qu'à la fin, on parle de la rentabilité de cet investissement qui est le recours à un manager de transition. Et cet investissement sera rentabilisé d'autant plus vite qu'on donnera au manager de transition les bonnes clés et que l'entreprise pourra bénéficier plus vite de l'ensemble de ses compétences qui sont parfois, par nature, dans ce genre de job, supérieurs même aux besoins du poste. Et donc, c'est un moyen d'aller vite, d'aller plus rapidement et de gagner, pour nous, de l'efficacité, du temps et de la rentabilité à terme.
Et Léonore, quelles sont les compétences, les skills qui permettent aux managers de transition de bien exercer leur métier ?
Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'écoute, surtout quand on arrive, beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Et ce qui me paraît très important, beaucoup d'humilité. Il ne faut pas arriver en disant, voilà, moi, j'ai fait plein de missions, je vais vous expliquer la vie, comment vous faites, tout ce que vous faites est mal. Alors, surtout pas, à mon avis. Ça me paraît vraiment les trois axes fondamentaux. Humilité, observation, écoute.
Et comment on fait pour... On arrive dans une entreprise, il y a énormément de choses à comprendre, à découvrir, une équipe entière. On peut être noyé rapidement. Comment, toi, tu gères ça de ton point de vue? Comment tu soulages peut-être un peu le manager de transition?
Alors, je sens en effet, au début de la mission, les deux, trois premiers jours, ça va. Après, là, ils rentrent vraiment dedans. Et je sens parfois à la voix qu'ils sont en train de, peut-être parfois, de se noyer. Il peut y avoir 15 jours difficiles. Et là, moi, je suis là. Je suis évidemment là. Alors, écoute, je les appelle, ils m'appellent. Enfin, je suis là. Et après, il arrive un moment où je sens que ça y est, ils ont repris. Et là, ils sortent complètement et là, ils ont la mission complètement en main. Mais il y a un petit moment, pas immédiat, de « waouh, c'est plus important que ce que j'avais imaginé ».
Ouais, d'accord. Vincent, les compétences et skills que tu utilises au quotidien?
Pour faire miroir à ce que disait Éléonore, en fait, une des grandes compétences qui sont nécessaires, c'est la capacité à ne rien laisser passer sous le radar. Donc, faut avoir une gestion de projet, une structuration, en fait, extrêmement forte, parce qu'en fait, on gère la mission comme un projet. Mmh. Et donc, au fur et à mesure de la mission, ouais, on va avoir, en fait, un certain nombre de choses qu'on n'a pas vues au départ et qu'on a besoin de traiter. Et ensuite, c'est est-ce qu'on les laisse et ça devient une liste qui est anxiogène ou est-ce qu'on l'organise dans le temps et on le fait rentrer dans la mission. Et pour moi, ça, c'est la première qualité. Ensuite, la deuxième, c'est évidemment celle que moi, j'utilise beaucoup, c'est la capacité d'entraînement. Et donc, entraîner l'équipe parce que ça va démultiplier la capacité à avancer. Et ce que disait Éléonore est très juste, c'est l'adaptation et la créativité dans la recherche de solutions. C'est-à-dire que, évidemment, si la solution était écrite et qu'elle était dans les bouquins de management, le client n'aurait pas besoin de moi. Le client, il a besoin de gens comme Éléonore et moi parce qu'il a une solution à laquelle il n'a pas la réponse. La réponse n'est pas évidente. On va aller prendre dans nos expériences précédentes pour composer une solution, mais qui ne sera pas celle qu'on a déjà appliquée quelque part. Elle va être certainement un amalgame de plusieurs solutions qu'on a vu fonctionner et qu'on sait mettre en route. Et c'est aussi une question du temps dont on dispose, ouais, pour pouvoir les mettre en route.
Alors là, on le voit bien, il y a une belle histoire qu'on raconte par l'intermédiaire de cette expérience entre Vincent et Éléonore, mais est-ce qu'on peut prendre un petit zoom arrière sur les différentes pratiques? Comment ça se passe globalement, ces missions?
Avec plaisir. Effectivement, cette histoire, elle est belle et elle est, l'hypothèse haute du métier. Maintenant, on est contraint, je l'ai dit, par des notions d'urgence. La promesse face à nos donneurs d'ordre, c'est de leur dire que sous 72 heures, on est capable de leur apporter une solution, d'avoir fait un tour du marché fin, qualifié. Il ne s'agit pas de faire du trading de candidature, loin s'en faut, mais de présenter des gens, encore une fois, qu'on a rencontrés, qu'on connaît, ou avec lesquels on fait connaissance, Éléonore l'a dit tout à l'heure, mais sur lesquels on a une vraie conviction sur ce qu'ils savent faire, où ils en sont et ce qu'ils ont envie de faire et pourquoi et avec qui. Mmh. Donc, la difficulté et nos missions, c'est d'être extrêmement qualitatif sur la compréhension des enjeux pour présenter des candidats dans leur entièreté de compétences et de motivation sous un délai très court.
Ouais.
L'enjeu, il est là.
Ouais.
Et effectivement, de temps en temps, c'est magique parce que notre passion de l'entretien nous fait rencontrer des gens en amont et nous fait les vraiment connaître et donc les rappeler pour des motifs extrêmement précis. D'autres fois, il nous faut aussi, en équipe, on a une vraie culture du partage des candidatures entre nous, justement pour gagner en agilité, gagner en réactivité. Et on anime aussi des communautés de managers de transition Badenoch & Clark qui nous connaissent sur des communautés fermées en application digitale pour, j'allais dire, optimiser entre les qualités humaines de la première rencontre authentique, oui, et les effets de réseau et de solidarité.
Ouais. Et saluer, du coup, toute l'équipe qui travaille au même titre que Léonore, peut-être pas exactement de la même manière, mais toujours avec, j'imagine, la même ADN, les mêmes méthodes.
L'ADN de partage est essentiel. Une équipe qui se trouve, au moment où je vous parle, à Paris, à Lyon et à Nantes, pour avoir une couverture du territoire qui soit forte avec nos donneurs d'ordre, les candidats, les managers de transition étant des gens éminemment mobiles, pour autant, il nous faut aller prendre les ordres là où ils se trouvent, absolument.
C'est quoi les grandes difficultés auxquelles font face les managers de transition qui travaillent en partenariat avec LHH Recruitment Solutions, chez des donneurs d'ordre, chez des clients?
Alors, je dirais que le grand enjeu, avant toute chose, malgré ces contextes d'urgence, c'est d'être dans une rencontre authentique.
D'accord.
Ça paraît paradoxal parce qu'on imagine qu'il faut tout faire très vite et qu'aller vite, c'est ne pas se connaître. Quand ça marche, c'est que les personnes se connaissent vraiment, ouais, et qu'elles ont pris le temps de poser les vraies questions et de ne pas partir à l'abordage dans le flou.
D'accord.
Donc, je crois qu'un des enjeux, c'est d'être très près l'un de l'autre pour justement dissiper le brouillard.
D'accord. Donc ça, c'est un des grands enjeux et une des difficultés, du coup, c'est effectivement de dissiper ce brouillard, de
oui,
ce que je comprends.
Et surtout, même côté consultant en amont, parce que nos donneurs d'ordre très pressés, de temps en temps, si on se limite à un questionnement basique, nous donneront pas suffisamment de matière.
D'accord.
On a un vrai travail de perspicacité, d'aller chercher l'information là où elle est ou là où elle est cachée de temps
ouais,
en temps.
Ouais. Vincent, j'ai l'impression que tu es d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles tu penses?
Alors, comme dans tout projet de changement, et souvent, là, en l'occurrence, dans les projets de transformation, on a toujours une résistance au changement, avec un positionnement de manager de transition. Donc, on vient pour une période qui est courte. Donc, on a besoin de montrer que le changement qu'on est en train d'opérer, on l'opère dans le cadre de la mission, mais il va au-delà de la mission. Et donc, ça rejoint ce que disaient Grégoire et Éléonore. Ça, c'est évidemment un premier obstacle. Et puis, c'est une vraie question d'intelligence émotionnelle pour être capable d'engager les gens dans la transformation. Et puis, c'est ensuite aller chercher le make it happen, c'est-à-dire, on va chercher des petits succès, On les célèbre et c'est comme ça qu'on va emmener vers les grands succès. Et c'est, pour moi, c'est un peu les clés qui sont les plus faciles, en tout cas celles que moi j'aime beaucoup mettre en œuvre.
Ouais. On va passer dans la dernière partie, dans la conclusion de ce podcast. Ça passe très vite et on a beaucoup d'éclairages, de retours d'expérience qui sont hyper intéressants, je trouve. J'aimerais peut-être se projeter sur l'avenir de la pratique. Toi, tu envisages comment la suite, Vincent?
Alors, je partage assez l'avis de Grégoire et d'Éléonore sur le fait que le métier est en train de devenir... D'abord, le travail d'évangélisation est en train d'être fait, on le voit, et ça fait partie de...
Et ce podcast, peut-être, joue un rôle là-dedans.
Évidemment, et donc ça va rendre effectivement la possibilité d'avoir plus de missions. Il y a aussi plus de gens qui viennent au management de transition, donc il y aura plus de profils et plus de missions. Et je suis assez d'accord avec l'approche de Grégoire, ça va devenir un vrai complément à des situations qui sont certainement plus larges que simplement une crise passagère ou un relais à opérer. Donc, ça va ouvrir tout un champ de nouvelles missions possibles.
Ouais. Et Léonore, c'est aussi une réponse à cette évolution du travail. Il y a de plus en plus de freelance, de plus en plus de managers de transition. Ça va aller crescendo, selon toi?
Moi, je pense que c'est le sens de l'histoire depuis pas mal d'années.
Ouais.
Les jeunes générations vont complètement se projeter dans cette manière de bosser, en fait.
Ouais.
Le CDI, longtemps, dans un grand groupe, c'est en train de disparaître. Donc, mais le manager de transition, ce qu'il a en plus, c'est cette expertise, cette expérience. Il a construit une énorme boîte à outils qu'il peut mettre au service de ses clients, sans faire de copier-coller, comme disait tout à l'heure très justement Grégoire, surtout pas. Mais oui, moi, je suis intimement convaincu que c'est le sens de l'histoire.
Mmh. Grégoire, le sens de l'histoire avec de plus en plus de managers de transition, peut-être qu'ils vont encore plus descendre dans les strates de l'entreprise en termes de hiérarchie.
Oui, peut-être, et surtout l'émergence de notions de plaisir, au sens où les managers de transition, très souvent dans leur parcours, ont répondu à leurs attentes statutaires, reconnaissance, etc., politique peut-être,
ouais.
Aujourd'hui prennent un vrai plaisir à travailler sur des missions, découvrir des environnements et délivrer des résultats. Cette notion de plaisir devient prégnante et c'est à mon avis un message ambitieux et positif.
Merci beaucoup Grégoire Conquet. Je rappelle que tu es Managing Director de l'activité Management de Transition en France chez LHH Recruitment Solutions. Merci pour tes éclairages.
Merci David.
Merci Vincent Foulon. C'est une belle mission sur laquelle tu évolues actuellement et d'autres missions pour la suite, toujours avec cette équipe que tu constitues avec Éléonore et qui semble marcher. Merci beaucoup, Éléonore Piau, de ta présence. Je rappelle que tu es Principal chez LHH Recruitment Solutions et je remercie également Thomas Vauquier, DAF de Sologer.com pour vos retours d'expérience.
Je vous en prie.
On a compris que c'était une expérience fort enrichissante pour vous comme pour Éléonore et Vincent. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. C'est là que vous serez tenu au courant des prochains épisodes. À très bientôt.